Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blas au micro et Maurice Paul Duc à la console. Aujourd'hui, mercredi, bien évidemment, on a notre chroniqueur de plein air et loisirs, Stéphane Baudric, avec nous en studio. Et en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Lorraine Vaillancourt, directrice artistique de la Nouvelle Musique, Nouvel Ensemble, bien sûr. Nouvelle Musique, tu viens de parler de la Nouvelle Musique juive, bien sûr, volume 3. Alors, restez à l'écoute, on vous revient tout de suite après la première pièce musicale.
Today, oh today, is a good day, oh a good day. Today is a good day, so why don't we play reggae music? Today's our day, so let's all dance our reggae music. Today is a good day, so why don't we play reggae music? Today's our day, so let's all dance our reggae music. Open your door and see just sunshining. What are you waiting for? All the birds are singing.
Whoa, whoa, whoa.
Ouais, c'était Vanupier, Good Morning. Avant de laisser la parole au chroniqueur de plein air et de loisirs, ce garçon qu'on vient d'écouter, c'est un Français. Il y a une histoire qui vient de se passer entre lui et une de ses fans, une Québécoise atteinte de cancer. C'est une de ses fans qui, elle a découvert dans une de ses vidéos sur YouTube. Et puis, son mari a écrit à cet artiste en France. Alors, elle ne savait pas comment le voir en spectacle, étant traitement de cancer ici à Québec, au Canada. Oui, à Québec, pas à Montréal, à Québec même. Et puis, son mari a envoyé une lettre à cet artiste qu'on vient d'écouter, Vanupier. Oui. Alors, ils se sont arrangés, ça dit l'artiste et le mari, le jour de l'anniversaire de cette dame à Québec qui souffrait, qui était en traitement de cancer. D'abord, il a envoyé une vidéo. Lui tenait à tout prix à être à Montréal, pas à Montréal, à Québec, pour faire un spectacle privé spécialement pour cette dame qui souffrait de cancer, qui est en traitement. Et son mari et ses amis ont tout fait pour que cet artiste se retrouve chez la famille. Un spectacle privé à la maison chez eux, à Québec. C'était très émouvant. J'ai vu les vidéos. Très, très, très émouvant. Merci à toi, Vanupier, pour ce gros cœur. Oui, c'est vrai. Il fallait que je parle de ça, quoi. C'est très, très intéressant. Alors, qui me regardait ici avec les yeux écarquillés, c'est Stéphane Baudry qui va nous parler de plein air, de randonnée. Je ne sais pas ce qu'il nous a... Il nous réserve comme surprise dans quelques secondes. Là, je laisse. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fulgence, comment ça va?
Quelle est la surprise qui vient aujourd'hui pour la balade, pour la randonnée?
Oui, aujourd'hui, je vous présente le mont Hereford.
Oui.
C'est un des plus hauts sommets de l'Estrie, avec une altitude de 875
mètres. C'est l'un
mètres.
Ou bien le plus haut?
C'est le troisième.
C'est le troisième plus haut sommet de l'Estrie.
Mm-hmm.
Oui.
Ouais.
OK.
En fait, si on se met en contexte, en 2001, il y a un riche homme d'affaires, Neil Tillotson, qui est inventeur, entre autres, du gant médical en nitrile. C'est quelqu'un qui a fait fortune en inventant plein de concepts au niveau du latex puis au niveau des caoutchoucs comme ça.
Oui.
Il meurt à l'âge de 102 ans, en 2001, et il lègue l'essentiel de ses avoirs aux fins du développement de communautés locales. On parle à Coaticook, au New Hampshire, au Vermont, au Guatemala, tous les endroits où il y avait, disons, eu à travailler... À collaborer avec ces communautés-là dans le cadre de son travail, de son entreprise. Alors, c'est ainsi que, du côté canadien, il y a des gens qui, avec l'argent, avec tout ça, ont réussi à se regrouper ensemble et mettre sur pied la forêt communautaire Hereford, assurant la conservation à perpétuité de 5600 hectares de forêt que M. Tillotson possédait.
Wow!
Alors, c'est vraiment...
C'était un homme d'affaires richissime.
Oui, c'est ça, mais qui avait à cœur vraiment le développement des communautés locales.
OK. OK. Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est? On parle de plus de 17 kilomètres de sentiers de randonnée, dont la plupart peuvent être également explorés en raquette durant l'hiver. Alors, c'est quand même beaucoup, surtout qu'il y en a qui sont linéaires. Ça veut dire
donc,
qu'il faut
les amoureux de sport d'hiver, là, c'est un de leurs endroits préférés, quoi.
Parce que les vues sont magnifiques, autant en hiver qu'en été.
Oui. Ouais.
Il y a beaucoup de points de vue. Il y a beaucoup d'endroits où est-ce qu'on peut voir les montagnes autour, les lacs. C'est vraiment intéressant.
Oui.
Et c'est sûr que c'est encourageant, parce qu'on a toujours un beau point de vue, on continue. Et il y a une grande variété de niveaux de difficulté selon le sentier. Il y a des petits sentiers, il y a des plus longs sentiers. On peut allonger en faisant des sentiers secondaires. C'est vraiment intéressant pour ça aussi. Et on peut aussi faire du vélo de montagne. J'ai vu quand même plusieurs personnes se promener comme ça en vélo.
Oui, avec des VTT, bien sûr. Vélo tout terrain, là.
Non, c'était vraiment des vélos. C'est vraiment des vélos. Et les gens pédalent et...
Des vélos normaux, là?
Oui, mais c'est fait pour la montagne, mais ils se promènent comme
ça.
OK. C'est quelque chose à monter.
Ah, d'accord. Salut les dégâts pour le muscle.
Oui, vraiment.
Le mollet.
Il y a deux stationnements pour pouvoir y aller. Parce qu'il y en a un qui nous permet d'avoir une expérience de 6 km pour se rendre jusqu'au sommet.
Oui.
Et il y en a un autre qui nous permet d'y aller juste au bout de 2,5 km. Et même si on continue le long de la route, on peut se rendre directement au sommet. Il y a un stationnement aussi.
Moi, on ne me demande pas d'aller là-bas au sommet à vélo. Moi, je vais aller à pied. Je vais marcher.
C'est ça. Mais ça peut, j'ai quand même vu des gens avec des jeunes enfants. Ils voulaient leur montrer le sommet. C'était quand même très magnifique.
Oui.
Et ils pouvaient le faire aussi.
Ouais. Wow. Impressionnant.
Le stationnement qui est à 6 km, c'est le 557 chemin de Coaticook, East Hereford. Et pour avoir l'expérience de 2,5 km, c'est le 2020 chemin centennial à Saint-Herménégilde.
Oui.
Alors, c'est vraiment les deux stationnements là, qui vont être les plus utilisés pour aller par là.
Mm-hmm.
Et comment s'y rendre? Bien, en voiture, par l'autoroute 10, puis la 55 et enfin la 141. Ça se fait en 2 heures du pont Champlain.
Oui, c'est comme si on allait à Sherbrooke, quoi.
Oui,
à peu près.
Un peu, oui. Mmh. On continue, puis on se rend vraiment jusque... C'est quand même pas tellement loin des lignes américaines.
C'est du côté de Quaticook.
Oui, exactement.
Voilà.
C'est ça. Je sais pas.
Je suis déjà passé par là, mais je ne sais pas si j'ai vu ce mont-là. Quoi. Ça fait quelques années déjà. Mais Quaticook, c'est quand j'entends ce nom, j'ai dit « Ah, je suis passé par là, où j'ai emprunté un pont. »
Oui. Oui. Mais il y a la Foresta Lumina, il y a plein d'autres choses aussi, les gorges de Saint-Maurice. Mais,
oui.
Mmh. Oui. Oui. Pourquoi y aller?
Oui, Maurice me parle de crème glacée de Quaticook.
OK, d'accord.
Oh, oui, j'en ai mangé là-bas.
Oui, c'est vrai, la crème glacée. Hein?
Oh, ouais. Ah oui, quand il fait chaud, moi, je ne prends pas de crème glacée en hiver. En été seulement, c'est ma maladie. Ça.
D'accord.
Oui, oui. Allez, je te laisse continuer, Stéphane.
Alors, les sentiers sont magnifiques, sont très bien entretenus et très bien balisés. On sait toujours où on va. Des fois, on va dans certains endroits de randonnée, on n'est pas trop sûr. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment très, très bien. Et c'est intéressant parce qu'il y a toutes sortes de sentiers. Il y a des sentiers rocheux, il y a des sentiers que c'est comme un genre de terre, en tout cas, sous nos pieds. C'est vraiment très intéressant. Grâce à ça, vu que c'est très humide, il y a une variété de champignons. J'ai jamais vu autant de champignons différents dans une randonnée. C'était vraiment intéressant pour ça. Le début aussi du sentier Neil T. Hudson, c'est le sentier de 6 km, il longe un ruisseau où se succèdent chutes et cascades. Moi, j'adore, là, je me promène, puis là, je vois les chutes, je vois l'eau, les torrents qui se promènent autour à côté de moi, là, c'est plein de photos. Mmh, c'est vraiment très bien pour ça. Il y a aussi des ponts de bois, avec des fois des toits. C'est vraiment intéressant à voir.
Mmh.
Et au sommet, c'est vraiment une vue de 360 degrés, avec... c'est une vue imprenable sur les montagnes, lacs, sur la vallée américaine.
Ça doit être beau, hein?
Oui. Puis quand on arrive là, on a une boucle. D'ailleurs, cette boucle-là passe par le stationnement là, qui était à Saint-Herménégilde.
Oui.
Cette boucle-là fait le tour du sommet. Alors, on arrive au sommet, on admire, on fait une boucle qui fait le tour du sommet, un peu plus bas, et on revient au sommet.
Est-ce que tu prends des photos, Stéphane?
Oui, beaucoup.
J'aimerais bien si c'était à ton exposition. On en a parlé la dernière fois, je t'avais dit ça, voilà. J'aimerais bien assister à ta prochaine... À ta première expo de photos de tes randonnées, là. Allez, je te laisse continuer.
Même des vidéos, parfois, parce que la chute à Dona, c'est une chute de 30 mètres. Et ça donne, quand on a vu, disons, des images, je dirais, de parc jurassique, où est-ce qu'on voyait des chutes tomber par une falaise de très haut, avec la végétation tout autour. Mais c'est exactement ce qu'on voit là-bas, avec cette chute-là.
Oui.
C'est pas quelque chose que j'étais habitué à voir. C'est vraiment venu me chercher. Et... C'est intéressant parce que si on part par le sentier de 6 km, on fait le tour, on revient, ça fait en tout une expo. La boucle est 6 km aussi.
Oui.
Donc, ça fait environ 18 km, mais pas trop exigeant. Je dirais par rapport à d'autres randonnées que j'ai faites qui étaient moins longues.
Oui.
Cette fois-ci, ça monte, ça descend, mais c'est quelqu'un intermédiaire, là, quelqu'un qui en a fait un petit peu de randonnée et tout, va trouver son compte sans aucun problème. Là, c'est pas épuisant comme randonnée. Mais c'est vraiment très agréable, très beau.
Oui, oui. Mais quelle est la période que tu conseilles aux gens? L'hiver ou bien l'été?
Ben, c'est très différent, je veux dire.
C'est différent, ça dépend du...
Moi, je ne suis pas allé l'hiver, mais j'étais avec une amie qui, elle, avait été. Et elle me dit que c'était une expérience totalement différente, mais les deux étaient très bien. La seule chose, c'est que la boucle...
Elle, c'est une amoureuse du sport d'hiver.
Oui, mais c'est elle qui a fait là, comme 50 sommets en un an. Alors, elle en fait l'hiver et l'été.
Ah, moi, d'accord. Ouais. OK, là, c'est autre chose.
Ouais. Puis, c'est ouvert officiellement de 6h à 21h, mais je ne recommanderais pas d'y aller quand il fait noir, parce que ces temps-ci, c'est quand même bien de le faire à la clarté.
Oui.
Il faut aussi consulter le site web. C'est très important. C'est forêt Hereford, H-E-R-O-F-O-R-D.org. ORG.
Oui.
Parce que là, on est rendu dans les week-ends de la chasse, mais ce ne sont pas tous les week-ends. Ça, c'est souvent comme un week-end sur deux.
Alors, attention, attention. Ouais. Dieu me dit que là où il y a les pistes de promenade, de randonnée, ouais. Là, il y a des chasseurs qui peuvent se permettre de...
Certaines semaines, oui.
Là, dans ce cas-là, les randonnées sont interdites ou bien quoi?
On m'a dit qu'elles étaient interdites sur certains sentiers.
Oui.
Mais sinon, il fallait porter un dossard. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment.
Faut pas que les chasseurs prennent pour un gibier.
Non, pas vraiment, non. Mais dès qu'on arrive sur le site...
Ah, t'as fait peur.
Mais dès qu'on arrive sur le site, on a tout de suite une fenêtre qui nous dit c'est quoi les dates.
Oui.
Alors, c'est...
Les dates, les périodes de chasse.
C'est ça. Alors, ouais, dans le fond, il y a toujours comme un week-end que c'est la chasse, un week-end que c'est, que c'est pas la chasse.
Je vais pas m'aventurer là-bas, là. S'il y a un chasseur voyou qui vient sur là où il n'y a pas de chasse, là, pour tirer sur les randons.
Voilà.
Non, c'était pour rigoler un peu. Je te laisse finir.
Pour la tarification, mais c'est gratuit.
Ne me donne pas la trouille, là.
Non. Mais c'est sûr que quand on me dit qu'il faut que je porte un dossard, ça ne me tente pas d'y aller pour cette semaine-là. Ça, c'est sûr et certain.
Oui, mais ça, c'est vrai. C'est ça. Mm-hmm.
Mais c'est gratuit. Mais il y a une boîte avec des enveloppes pour un don volontaire parce que c'est ça qui finance l'entretien. J'ai dit, les sentiers étaient très bien balisés, très bien entretenus. Il y a un coût, les gens le font, mais ça permet un peu de financer les travaux de l'entretien.
OK.
Oui.
OK.
C'est ça. Par contre, il y a des coûts l'hiver pour le ski, mais pour la randonnée, non. Mm-hmm.
Est-ce que l'arrondissement ou bien la ville de Coaticook est impliquée dans l'entretien?
Mais ça fait partie des gens qui sont comme des organismes, dans le fond, qui œuvrent pour ça.
OK.
Les chiens sont admis. J'ai vu beaucoup de chiens se promener là. Ça avait vraiment l'air intéressant pour eux, avec évidemment en laisse.
Mais oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas laisser les gros chiens là en train de courir après les randonnées là-bas. Là. Non, voilà. Mm-hmm.
Et il y avait une personne une fois avec trois gros chiens, là, je ne sais pas qui promenait qui.
Mm-hmm.
Les sentiers peuvent être boueux ou glissants.
Oui.
Alors, c'est prévoir de bonnes chaussures.
Les vraies chaussures de marche, là.
Oui, bien, il n'y avait plus la veille, puis je dirais que parfois, c'était quand même assez boueux. Alors,
ouais.
J'imagine, s'il y avait plus de 2-3 jours, ça aurait pu être quelque chose.
Ouais.
Puis, il y a une carte de sentier, il y a une application mobile qui s'appelle Ondago, O-N-D-A-G-O, qui permet d'avoir des sentiers de différents endroits de randonnée.
Oui.
Et on peut même se suivre sur la carte. On peut voir sur quel sentier on est. C'est très utile.
Mmh.
Et la carte de sentier de cet endroit-là est disponible sur l'application mobile Ondago.
Oui. Et pour terminer?
Alors, tout ça, tous les sentiers exigent un effort léger à moyen, donc ça demeure fort agréable à explorer. On peut facilement ajuster la difficulté si on y va en famille en choisissant le bon stationnement.
Mmh.
Les panoramas disponibles tout au long du parcours, c'est magnifique et c'est saisissant. Puis même la route, même pour se rendre là, dans cette région-là, le Coaticook, là, c'est vraiment magnifique. On a les collines, on a les montagnes, on a...
La bouteille a coupé le souffle.
Oui, vraiment. Ouais,
plaisir pour les yeux.
C'est enchanteur comme décor.
Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est des endroits dans lesquels tu vas. De toute façon, moi, j'aime quand je suis dans un endroit comme ça, mon cellulaire, la plupart du temps, je le laisse dans la voiture. Parce que je ne prends pas de photos. Mmh. Je veux simplement profiter de l'endroit.
Mmh.
Et quand je me mets à... faire des photos, je rate les beautés de l'endroit, la beauté de l'endroit. Oh ouais, souvent je fais ça.
Mmh.
Oh ouais, même je peux avoir le cellulaire dans le sac à dos, mais je m'en sers pas. Oh ouais, quand je me mets à faire des photos, je suis pas concentré sur ce que je vois.
Et c'est sûr que les photos ne donnent jamais justice
c'est
à ce qu'on voit.
C'est ça. Je préfère profiter de la beauté de l'endroit que de prendre des photos par-ci, par-là. Mais comme toi, tu es un amateur, tu es un spécialiste, un amateur des randonnées, disons, c'est bien que tu laisses des traces. Hein. Et à un moment donné, j'aimerais bien assister à ton expo. Allez, vas-y, je t'écoute. Pour terminer, Stéphane, s'il te plaît.
Alors, c'est ça. C'est vraiment un endroit à explorer. Il y a beaucoup d'endroits.
Mm-hmm.
Comme je disais, juste vérifier quand est-ce que c'est la chasse pour les différents endroits.
Oui.
Mais à part ça, là, il y a tellement de beaux sommets au Québec, ça vaut vraiment la peine d'en profiter.
Oui. Merci. C'est comme quand je vais dans les églises juste pour l'architecture. Voilà, ce qu'il y a à l'intérieur, là, ce qu'ils ont fait il y a des siècles. Là.
Ouais.
Je ne prends pas de photos. Mm-hmm. Mais quand je vois des gens tout le temps, clac, je dis, mais profitez-en. Ces photos-là, où est-ce que tu vas les mettre d'ailleurs? Et puis, j'ai vu ça, moi, je regarde et puis... Je laisse le plaisir à mes yeux.
Moi, je prends des photos la première fois que je vais.
Oui.
Puis ensuite, j'y retourne.
Mmh. Oui, c'est vrai, c'est même je me suis dit, non, je suis là pour en profiter, mais pas pour faire des photos, quoi. Mm-hmm. Voilà. Pour que je puisse, ma mémoire puisse mémoriser ce que j'ai vu. Ouais. Voilà, merci beaucoup à toi.
Merci.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Oui.
Merci Stéphane.
Merci beaucoup.
Au revoir.
I took a pill and had a dream.
Yo también.
I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
Dime.
To be someone I've never been.
Me encanta.
I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellin.
Te gusta.
The sun was caressing my skin.
Dime.
Another me could now begin.
Tranquila, baby, yo te apoyo. No hay que hablar no mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aquí tengo un trono. Te gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora.
Ven conmigo, let's take a trip.
Si te llevo por un lugar lejano.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Te enamoro, te enamoro, mami.
Ven conmigo, let's take a trip.
Dame de eso que tú estás tomando.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Ay, ay, ay.
Sipping my pain just like champagne. Pain. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive.
Show me.
For once I didn't have to hide myself.
Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Pero mami, tranquila, tú solo vacila. Que estamos en Colombia y aquí rumbo en cada esquina. Y si tú quieres, nos vamos por Detroit. Tú sabes, si sé de dónde viene, pues sé pa' dónde voy.
Ven conmigo, let's take a trip.
Si te llevo pa' un lugar lejano. Estás tomando.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Okay. Si te enamoro.
Si me enamoras.
En menos de un año, no, no. Nos vamos, nos vamos, nos vamos pa' Medallo.
Qué rico.
Si te enamoro.
Si me enamoras.
Y así nos quedamos, no, no.
Con mami, con mami, con mami.
Slow down, Poppy.
Ay, ay, ay. We built a cartel just for love. Venus was hovering above us.
Oh, yeah.
I took a trip and set me free.
Mi reina.
One, two, two, one, two.
Madonna avec la complicité de Maluna. Medline. Voilà, avant de passer à la prochaine pièce musicale, rapidement, je vais parler de hockey sur glace parce qu'il y a la participation de la Chine au tournoi masculin des JO 2022 qui est mise en question. Et la question, voilà, voilà, au tournoi masculin, pas les femmes. Les femmes, c'est OK. Ça se pose un problème au regard de son niveau sportif insuffisant. Voilà, le nouveau président de la Fédération internationale de hockey sur glace, Luc Tardif, a dit « Cette question se pose vraiment pour l'équipe masculine, pas pour l'équipe féminine. Il va y avoir des matchs de l'équipe de Chine qui seront supervisés par un responsable et une décision sera prise ensuite. » Voilà. Voir une équipe se faire battre 15-0, ce n'est pas bon pour personne, ni pour la Chine, ni pour le hockey sur glace. Voilà, ils n'ont pas d'équipe vraiment. Et puis depuis 2019, ils n'ont pas eu de rencontres. Donc on va les faire jouer. Là, ils vont être obligés d'avoir des rencontres contre des équipes. Alors, bon, vous l'avez dit, c'est le pays organisateur. C'est-à-dire, c'est un pays qui est qualifié d'office. Si son équipe est retirée, elle va être remplacée par qui? Bien évidemment, par la Suède. Voilà. Alors, les Chinois, ils n'ont qu'à bien s'entraîner encore. Et puis, ils vont ramasser les Chinois n'importe où. Ou bien des gens changer de citoyenneté pour jouer pour l'équipe qui n'ont jamais joué ensemble, c'est la raison pour laquelle ils vont essayer de tester cette équipe. Et puis parce que les adversaires, c'est l'Allemagne, c'est le Canada, c'est d'autres pays qui vont ils vont complètement les détruire. 15-0 ou 20-0, ça c'est ce serait pas bon pour le hockey sur glace en général. Alors, on va terminer la première partie de l'émission, bien sûr, avec une autre pièce musique. Ouais, c'est fini. Merci, Maurice. Plus de musique, pas de musique. Restez à l'écoute, on revient tout de suite avec notre invitée Lorraine Vaillancourt, qui est chef d'orchestre, directrice artistique, professeur pianiste, qui est du nouvel ensemble Modern Style, qui est la fondatrice en plus d'ailleurs. Elle va nous parler de ça. Et après la petite pause publicitaire, restez à l'écoute.
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
I'm moving silent.
ça c'était Lee Scratch Perry avec la complicité de Brian Eno, Here Come the Warm Dreads. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a notre invité qui est déjà là. Oui, on va parler un peu de nouvelle musique juive. C'est la dame, quand je vois son parcours, j'ai dit waouh, Lorraine Vaillancourt. Ouais, c'est la grande directrice artistique, professeur, chef d'orchestre, pianiste. Elle a fondé la directrice artistique du nouvel ensemble moderne. Bonjour Lorraine Vaillancourt.
Bonjour, c'est moi la dame.
Ouais. Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Oui, merci bien Lorraine d'avoir le temps de venir parler un peu du nouvel ensemble moderne et puis de cette nouvelle musique juive volume 3. Avec les prix Aziri de musique. Alors, je ne sais pas, mais en gros, qu'est-ce qui a fait? Comment vous enseignez à l'UDA, à l'Université de Montréal. Est-ce que vous avez vu que dans l'entourage, il n'y avait pas un groupe qui pouvait faire ce genre de musique ou bien qui pouvait que vous pouvez diriger et puis vous a dit, je veux créer mon nouvel ensemble moderne?
Ah ben ça, d'abord ça remonte à loin, hein. C'est 89.
Oui, oui. Comment l'idée est venue?
Le goût de faire de la musique d'aujourd'hui, premièrement.
Oui.
Et puis de travailler avec des musiciens qui ont envie de faire de la musique d'aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas.
Oui.
Donc, encouragé ou stimulé par ce que j'entendais autour, parce qu'il y a des ensembles type qui sont du même ordre. Bon, je pense à l'Intercontemporain à Paris, la London Sinfonietta à Londres.
Oui.
Moi, j'avais envie d'avoir un ensemble permanent, enfin des musiciens qui sont toujours les mêmes, qui travaillent en profondeur, qui ne sont pas branchés nécessairement sur le résultat, mais qui s'intéressent aussi au processus.
Oui.
Alors on est parti comme ça, j'ai choisi les musiciens un par un, je les ai rencontrés, ça vous tente, et voilà, on met le pied dans l'étrier, puis 32 ans plus tard, nous existons toujours.
Oh oui, mais je vous dis bravo. Comment ils ont réagi quand vous les avez approchés, ces artistes?
Ah, ben ça, c'est sûr que les musiciens, à ce moment-là, ben, faut dire, écoutez, là, ça fait encore une fois, ça fait 32 ans.
Oui.
D'entre eux étaient assez, on était tous assez jeunes.
Oh, oui, oui, oui.
Et il y avait un appétit pour faire ce répertoire et puis de jouer les compositeurs de notre temps et de jouer aussi le grand répertoire du 20e siècle, maintenant du 21e aussi.
Oui.
Un répertoire qu'on entendait si peu. Dans nos salles de concert, mis à part, justement, il y avait la Société de musique contemporaine qui existait déjà. Bon, il y avait bien sûr des acteurs dans le milieu, mais le désir aussi, c'était encore une fois d'avoir un ensemble fixe. Donc, qui se retrouvent. Parce que bon, c'est comme dans la vie, ça. Il faut se fréquenter assez longtemps avant d'arriver à avoir une sorte d'osmose et puis au niveau du son et tout. Alors, tout ça se fait sur la durée, pour moi. Et ce temps-là, on ne l'a jamais. On ne nous le donne pas. En musique en particulier, les choses, en tout cas à cette époque-là,
oui.
Je faisais beaucoup d'enregistrements, justement, à la radio, mais c'était toujours très rapide. On répète 3 heures, on joue et on passe à autre chose. On répète une semaine, on passe à autre chose. Moi, j'avais envie qu'on s'arrête un peu. D'abord, qu'on prenne les choses un petit peu en amont, qu'on commence à les lire, puis qu'ensuite, on s'y plonge, puis qu'ensuite, on aille au bout. Du texte.
Oui.
Ce qui fait que parce que quand on est devant quelque chose de nouveau, on a ça sur son pupitre, on n'a pas le temps d'écouter ce que nos voisins font. On se préoccupe seulement de notre propre performance.
Oui.
Donc, c'était de donner aux musiciens le temps de réaliser dans quel zoo ils étaient. Ils connaissent les autres bêtes.
Ah.
Et puis se fréquenter, en fait. Donc, trouver un terrain d'entente et tout ça. Alors, c'est parti comme ça. Puis voilà, si ça a survécu, je pense que c'est beaucoup à cause de cet entêtement, se préserver du temps.
Oui.
Bon, la pandémie nous en a trop donné.
J'en arrivais là tout de suite. Comment vous avez vécu ce temps de pandémie depuis presque 2 ans maintenant?
Ben, c'est ça. On a été un petit peu arrêtés dans nos élans puisqu'on avait effectivement des concerts. Tout ça a été annulé.
Oui.
Printemps.
On n'avait pas fait de virtuel.
Ah oui, on en a fait. On a fait justement le concert autour des prix Aziri Eli. On l'a fait en octobre.
Oui.
On l'a fait en octobre pour le web. Et puis on s'est retrouvés, on a enregistré, c'est pas la version du concert, on s'est retrouvés au mois de juin, en salle, 3 jours pour enregistrer, remettre les œuvres sur nos pupitres. Mais oui, donc on a fait aussi un grand concert en fin d'année. On a fait des choses pour le web au cours de l'année, mais c'est des projets soit différents, pas seulement différents, puisque à Azrieli, ce concert-là était prévu. Il a été maintenu, je dirais que c'est le seul concert qui a été maintenu tel quel. La différence, c'est que c'était sans public et qu'on ne jouait pas sur la scène, on jouait dans la salle. On a enregistré ça à la salle Bourgie, donc ça s'est fait vraiment sur le plancher, avec toute la distanciation.
Une très belle salle, avec très beau acoustique.
C'est vrai que c'est une belle salle.
Voilà, alors ce volume 3, Nouvelle musique juive, volume 3, qui sort d'ailleurs bientôt, là, ça dit le premier séquence, c'est après-demain, là. Dans deux jours, là.
Absolument. On n'a pas vu, j'ai pas vu encore l'objet, mais je sais ce
qu'il y a. Oui, le 1er octobre, oui. C'est dans quelques jours. Aujourd'hui, c'est le 29 déjà, donc c'est bientôt. Alors, comment on se sent?
C'est un morceau de notre âme qui est là.
Oui.
Alors, le résultat du travail. Et puis... je dirais surtout pour les musiciens, parce que moi, je suis quand même à l'endroit idéal pour entendre la musique. Sur le podium, c'est
vous êtes la directrice artistique. Oui.
Alors que les musiciens qui sont plongés dedans ne réalisent pas toujours...
Et vous parlez comme si vous n'étiez pas musicienne aussi, alors que vous êtes aussi pianiste.
Oui, c'est sûr, mais c'est sûr que quand on est au cœur de l'orchestre, on n'a pas le recul, on est dans des œuvres nouvelles, de la création. Mmh. Alors, ils sont souvent très agréablement surpris, en disant, c'est vraiment beau cette pièce, mais c'est sûr que quand tu dois te préoccuper de ce que tu fais dans le fond de la scène. Donc, c'est une dimension de plus. C'est sûr qu'on peut enregistrer les concerts et qu'on peut les écouter après, mais c'est pas pareil. Là, on a un objet et ça existe encore. Pas seulement du numérique, des choses qu'on peut écouter sur le web. Et puis les œuvres sont très très belles. J'avoue que ces prix, ils n'ont pas été donnés à des amateurs.
on va revenir sur ça, parce que quand je vois un peu la description, le nom des artistes ici là qui ont été on va écouter Yitzhak, si je prononce mal, corrigez-moi s'il vous plaît. Yitzhak Yedid. Kadosh and Curses.
Ok. Thank you.
passait sous la direction de Lorraine Vaillancourt. Ouais. Elle a été régulièrement invitée à l'étranger, hein, au Canada aussi, diriger l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Québec et l'Orchestre métropolitain, l'Orchestre de Cannes, l'Orchestre Gulbenkian à Lisbonne, l'Orchestre national de la RAI à Turin, la Philharmonie de Nice, l'Orchestre orchestral, l'Ensemble orchestral contemporain de Lyon, le Plural Ensemble de Madrid et les percussions de Strasbourg. Mais que signifie pour vous être toujours à la tête comme ça de ce grand groupe? La direction artistique signifie quoi pour vous, Lorraine?
Ah, ben, d'abord, j'ai laissé la direction artistique.
Oui.
Il y a trois ans maintenant, ou trois, quatre, je ne sais plus, avec la pandémie. D'abord, j'ai laissé l'enseignement, j'ai arrêté d'enseigner.
Oui. Bon,
ça va, après 45 ans à l'université, ça va, je peux laisser ma place.
En fait,
je comprends. J'ai conservé la direction musicale de l'ensemble.
Okay.
En fait, j'ai gardé le meilleur, je vous dirais. Le
oui.
plaisir de faire de la musique avec mes musiciens.
Oui.
Il n'y a rien qui peut dépasser ça.
Mm-hmm.
Et je me suis un petit peu éloignée de tout ce qui entoure et qui est beaucoup plus lourd. Tout ce qui est recherche de budget, demande de subvention, voilà. Toute cette l'administration comme telle.
Bon, oui, oui.
Plus beaucoup. C'est Normand Forget maintenant qui assure la direction.
Qui s'en occupe, oui.
Et d'ailleurs, mmh. un des membres fondateurs, c'était le hautboïste des premières années.
Oui.
Voilà. Donc, c'est toujours un bonheur de les retrouver, ces musiciens. D'abord,
oui.
ils sont toujours aussi bons.
Oui.
aussi enthousiaste et voilà on ne perd pas ça même en vieillissant. Le goût de la musique, c'est pas un métier qu'on laisse, ça fait partie de nous,
ça fait partie de vous, ça.
Oui. Oui.
Et puis ce volume 3 de la nouvelle musique juste, le volume 3, les prix Azéry là qui enregistrement en première mondiale des œuvres composées par les lauréats des prix Azéry de musique.
Oui.
Voilà, on parlait un peu Keiko Davo, ces artistes, cet album, on trouve sur cet album Keiko Davo, ces commandes Azéry de musique canadienne, Yetam
oui.
Rabet, ce sont ces artistes que vous avez réunis là sur cet album qui sort là bientôt. Moi, j'ai hâte de le découvrir en entier, d'ailleurs.
Ah oui, il faut vraiment l'écouter, ça vaut la peine. Bon, je dois dire que c'est pas moi qui ai fait le choix de ces œuvres. Hein. Comme ce sont les prix,
oui.
Azrieli, il y avait un jury, et puis ils ont chaque année, à chaque deux ans, en fait, c'est un prix qui se tient tous les deux ans, et puis ils choisissent les interprètes.
Ah.
Et on a eu, on était très heureux d'apprendre qu'ils voulaient que ce soit le NEM qui fasse les créations. D'abord parce que les œuvres sont vraiment intéressantes. Et voilà, donc c'est comme ça que ça nous a été offert.
Oui,
c'est
oui.
un très beau cadeau.
Oui, 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 c'est
alors,
vrai.
Après ça, ben, il faut travailler, puis il faut les créer, puis il faut les jouer. Là, mais ça, c'est ça notre travail et notre propos.
Oui. Alors, l'œuvre suivante, on parlait un peu de Estro Poético Harmonico 3, là, écrite par Yotam Haber pour mezzo-soprano. Parlez-nous un peu de ça, s'il vous plaît.
Eh bien, cette œuvre-là, elle est un peu particulière parce qu'elle fait partie d'un cycle, en fait. J'ai marqué 3, Harmonico 3, parce qu'il
oui,
a commencé
Harmonico 3,
autre ouais. chose avant,
mmh.
et toujours inspiré par. Soit des chants liturgiques ou des psaumes ou des poèmes de poètes israélites où il a beaucoup travaillé en collaboration avec un ethnomusicologue.
Oui.
Et Monsieur Levaille. Et ça, c'est extraordinaire parce que bon, il y a cinq mouvements, il y a donc cinq textes qui l'ont inspiré, en fait.
Ah.
C'est toujours par rapport à... il y a plusieurs sources, c'est un petit peu compliqué à définir ici, mais il y a plusieurs sources. D'abord, les psaumes qui ont été mis en musique par un compositeur baroque, Benedetto Marcello,
oui.
Qui lui a transcrit et arrangé ce qu'il entendait dans les synagogues de Venise.
Mmh.
Et puis, toute cette collaboration, ensuite, il s'est plongé dans les archives de Levaille, et Léo Levaille, et il a utilisé donc des textes un mélange,
oui.
Soit des cantillations traditionnelles, soit des textes liturgiques, et en opposition avec des textes de poètes israéliens.
Oui.
Donc, c'est un propos assez... Les poèmes sont magnifiques, mmh. et ils sont toujours chantés par en même temps que tout le reste. Parce que, bon, il y a la, évidemment la partie de mezzo-soprano,
oui.
magnifique chanteuse, qui fait ce travail. Donc, il y a cette voix qui raconte le poème.
Oui.
Mais il y a aussi, derrière, toujours une partie électronique. Si on veut, on entend une autre voix. C'est parfois une femme, le reste sont chantés par des hommes.
Mmh.
Les textes, en fait, sont dits, les cantiques. Bon, donc, il y a donc plusieurs couches superposées,
oui.
En plus, évidemment, de toute l'orchestration très riche de Yotam dans cette œuvre-là.
Ouais.
C'est vraiment une œuvre assez magnifique, je trouve.
Ouais. Pour terminer, bon, ben, concernant l'œuvre de Keiko Davos, Arras, c'est ce terme désignant une tapisserie richement tissée qui est décrite comme un kaléidoscope d'influence qui englobe plusieurs générations.
Oui, ben, ça dit tout.
Oui, oui.
J'ai
oui.
pas grand-chose à ajouter.
C'est ça.
C'est vraiment, effectivement, une tapisserie
oui.
Tissée très fin.
Oui.
Souvent, vous voyez, quand on regarde des tapis iraniens ou des tapis orientaux,
oui.
Il faut se mettre par terre, il faut vraiment regarder les motifs avec les doigts
oui.
pour voir, goûter les différences, les nuances. Vous savez qu'on ne vit pas à une époque où la nuance est bienvenue.
Oui.
Aujourd'hui, tout est noir, tout est blanc.
Mmh.
Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de. On est très très. On a un esprit très manichéen. Là. Bon, c'est comme ça. Mais bon, la nuance, ça existe. Et parfois, c'est dans la nuance que ça se passe. C'est là qu'on touche au meilleur.
Au meilleur, ouais, qu'on voit un peu la profondeur de l'œuvre, oui.
Oui, c'est ça. Donc, cette œuvre-là, elle est vraiment... c'est joué tout d'une traite, contrairement aux autres qui ont des mouvements séparés.
Mmh.
Il y a quand même 4 sections, mais elles sont faites sans différence, vraiment enchaîné.
Oui.
Et c'est à la fois très statique, si okay. on veut.
Pour les 30 dernières...
un long fleuve tranquille.
Oui, c'est pour les 30 dernières secondes que nous reste, où a lieu le lancement, la sortie de... c'est numérique ou bien dans une salle, quelque part où il y aura du présentiel.
Je ne crois pas qu'on ait de lancement physique,
oui.
comme on dit. Et puis, c'est une drôle d'expérience quand même, parce que le producteur est à New York, et un des compositeurs est en Australie, l'autre est aussi aux États-Unis,
oui.
Keiko est à Montréal, Nem est à Montréal. Donc on a fait tout cet enregistrement avec des Skype parce que les compositeurs ne pouvaient pas se déplacer avec la pandémie.
Oui.
Donc le lancement, eh bien, il se fait comme ça, avec vous, avec à travers les différentes entrevues et les différentes communications électroniques. Je pense que ça va plutôt être via les réseaux sociaux.
Okay,
pour l'instant, en tout cas.
Je vais en reparler du 1er octobre, d'ailleurs.
J'imagine que lors de notre prochain concert, ou probablement peut-être même au moment de l'opéra, je ne sais pas si on en profitera pour sortir les boîtes.
Ouais. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Et puis je dis bon vent à ce volume 3.
Merci beaucoup.
Oh oui, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci.
Au revoir.
Au revoir. on a fini, je vais pas dire rester à l'écoute, non, on finit l'émission comme ça. Oui, vous pouvez rester à l'écoute pour écouter les autres émissions qui vont suivre, voilà, différées sur les ondes de Canal M. Merci à toi, Maurice Bolduc. Dis merci au chroniqueur de plein air et de loisirs, Stéphane Baudry, et à notre invité, Lorraine Vaillanco, qui est directrice musicale, et puis bon, qui est venue nous parler de la nouvelle musique juive volume 3, qui sort le 1er octobre, là, bientôt, là, 2021. Alors, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité, et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Et je vous dis ciao.